Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, nous sommes à Francfort pour une émission spéciale dans le cadre de la Foire du Livre, la plus grande foire au monde dans le domaine de l'édition avec des invités prestigieux. Nous allons vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. La France et plus largement la francophonie est l'invité d'honneur de cette édition 2017. C'est un moment majeur pour l'économie du livre sur le plan mondial. Nous sommes ici pour cette librairie francophone qui représente les médias francophones publics avec de nombreux invités. Jean-Marie Gustave Leclésio est avec nous pour son nouveau roman. Nous parlerons aussi avec lui du prix des 5 continents qui vient d'être décerné ici et nous rendrons hommage à Jean Rochefort. Il sera question du prix Goncourt avec tout le jury qui est présent ici à Francfort. Tahar Benjelloun et Éric-Emmanuel Schmitt dévoileront la deuxième liste du Goncourt à nos micros. Il va y avoir des surprises car nous allons nous déplacer sur tous les espaces pour vous faire vivre les ambiances de cette foire de Francfort. Et nous serons avec Françoise Nyssen, la ministre de la Culture en France.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on commence tout de suite cette émission dans l'ambiance de la Foire du Livre de Francfort avec une série de rencontres organisées et improvisées. On va vous faire vivre tout de suite cet événement majeur pour le monde du livre et de l'édition.
Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsumher vergisst.
Le pavillon en France envahi par tous les invités de cette Foire du Livre de Francfort. Et avec de nombreux invités de marque, de nombreux auteurs aussi. Hélène Carrère-Dancos est ici, de l'Académie française. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Comment allez-vous?
C'est une occasion rare.
Quelle est votre impression madame en arrivant ici sur le pavillon France?
Je trouve qu'on est très heureux et que la langue française est tellement... Enfin, on sent ce que c'est.
Oui.
Et les liens entre l'Allemagne et la France et les liens culturels sont à l'honneur. Alors je crois qu'on a reconstruit ce qui s'était un peu affaibli.
Alors vous savez qu'il y a des auteurs du Maghreb qui disent que la francophonie, il faut l'apporter partout dans le monde parce que c'est un rempart face au fondamentalisme.
Écoutez, l'Académie les salue avec une régularité absolue.
Exact.
Et maintenant, je voudrais faire entrer un auteur du Maghreb à l'Académie.
Oui, qui par exemple, madame?
Peut-être Boualem Sansal, peut-être Eddy Kadour, mais... Voilà.
Vous savez que porter la langue française, porter la francophonie dans le monde, c'est un symbole particulier aujourd'hui, vous pensez cela vous aussi?
Absolument, mais alors ça, l'Académie est ouverte à ça. Hein. Ouais. Depuis une dizaine d'années, elle est très francophone.
Avec Daniela Ferrière par exemple, avec Amin Maalouf.
François Cheng, André Makin. Je peux vous faire une longue liste.
L'objectif c'est de continuer alors.
C'est l'Académie française et de la francophonie maintenant.
Oui, je sais. Voilà. Merci madame. Merci d'avoir répondu à la librairie francophone. Diffusé sur France Inter, la RTS, la RTBF et Radio-Canada.
Merci de m'avoir interrogé.
Merci.
Monsieur Gallet, bonjour. J'ai perdu ma camarade, j'étais le seul près de la chancelière et du président tout à l'heure. J'ai essayé de représenter dignement l'Académie.
Philippe Claudel, toujours là.
Toujours là, non.
Enfin, en tout cas, dans la librairie francophone, oui.
Oui, dans la librairie francophone, grâce à vous, Emmanuel. Oui. Et puis là où, finalement, la représentation symbolique compte, en l'occurrence, dans cette magnifique foire du livre de Francfort, où la France est le pays invité. C'est vrai que, personnellement, et aussi en tant que membre de l'Académie Goncourt, il nous tient à cœur d'être là et de défendre la francophonie, les littératures françaises. Et je trouve que tout à l'heure, le président de la République a fait un discours qui était vibrant, qui était nourri de références culturelles, littéraires, poétiques, philosophiques. La chancelière a eu aussi des mots forts. Et ensemble, ces deux chefs d'État, me semble-t-il, avec l'aide de leur peuple, de leurs intellectuels, de leurs poètes, de leurs philosophes, il me semble qu'il y a un message commun d'espoir pour l'Europe qui est essentiel aujourd'hui. Et ça me fait très très plaisir d'être là aujourd'hui. Moi qui d'habitude fuis un peu toutes les cérémonies officielles, qui suis plutôt discret, je suis très heureux d'être là. Ici, dans cette foire de Francfort, nous allons élaborer notre deuxième liste du prix Goncourt.
Et on va recevoir quelques membres de l'Académie Goncourt tout à l'heure pour parler de cette liste.
Figurez-vous, je le sais.
Merci Philippe Claudel.
Bon
merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Comment ça va, là, Mabankou ?
Non, mais on est en direct, là ?
Ouais, non, quasiment.
Ah non, ouais, je te connais, là.
On fait un petit tour, comme ça, du pavillon France. On a rencontré beaucoup d'auteurs pour cette ouverture d'émission.
Oui.
Émission spéciale de la librairie francophone ici à Francfort. Vous avez beaucoup œuvré, Alain, pour oui. que tous ces auteurs soient là.
Oui.
Vous êtes quasiment le commissaire.
Ben, disons que j'ai participé un peu au conseil littéraire, à la sélection des écrivains, mais aussi à la ligne directrice. C'est pour cela que j'ai écouté le discours du président Macron tout à l'heure dans la salle, avant le discours d'Angela Merkel. Je l'ai interpellé dans le couloir et tout le monde lui faisait des éloges, mais j'étais le seul à dire « Mais monsieur le président, vous avez commis quelque chose de grave que je ne supporte jamais. Vous avez fait un discours d'une heure en parlant de la France sans pour autant citer de la littérature en français, sans pour autant citer un seul auteur francophone. Vous nous demandez d'être les petits-fils de Goethe, de Gérard, de Nerval, mais je vais être aussi le cousin de Kuruma, je vais être aussi peut-être le petit-fils d'Amadou Ampateba. C'est à cela qu'il faut aussi penser, et je crois qu'il a reconnu, puisque je suis resté là. Il ne faut pas que ce soit une fête, simplement, pour révéler un certain nationalisme en français.
Alors vous lui avez dit ça tout à l'heure.
C'est pas quelque chose en aparté.
Ah non, j'ai compris,
il y avait
tout le monde
plus
autour.
De 300 personnes. Alors je crois même que certains journalistes ne s'y attendaient pas puisqu'il avait des fleurs. Mais moi, je suis direct.
Quand
je veux dire quelque chose, je ne vais pas par quatre chemins.
Qu'est-ce qu'il a dit alors ?
Je pense qu'il a essayé de m'expliquer. Oui, mais j'ai parlé. Mais je dis, mais de quel auteur ? Et oui, mais j'ai parlé de la francophonie. Mais la francophonie n'est pas un auteur. Il faut que la France aussi apprenne à prononcer les noms qu'on dit compliqués des auteurs dits francophones. Sinon, on continuera toujours à penser qu'il y a d'un côté la littérature française et de l'autre la littérature francophone. Cette fête, cette rencontre en Allemagne nous permet aussi de changer notre manière de voir les choses. Si au sommet de l'État, on peut faire un discours d'une heure sans entendre résonner le nom de Césaire, de Senghor, de Kuruma ou de Tierno Monenembo, alors on a fait first route. La littérature française aujourd'hui n'est pas forcément soutenue par tous ceux qui paradent ici. C'est soutenu par des gens qu'on ne voit pas, dont les couleurs ressemblent à celles de l'arc-en-ciel. Ça, on doit le savoir. Ce n'est pas de la faute du président Macron. Peut-être que ses conseillers devraient un peu venir à mes cours au Collège de France ou bien aux États-Unis.
Bon, vous savez que c'est ce qu'on porte, la Mabankou, dans cette émission. Et vous le portez avec nous depuis toutes ces années.
Voilà.
C'est vrai, il faut rappeler que la francophonie, ce n'est pas que la France.
Ce n'est pas que la France. Mais dire que l'Allemagne accueille la France et la francophonie, c'est dire en sous-titre « L'Allemagne accueille la France avec ses anciennes colonies ». Peut-être qu'il devait m'embaucher pour ce discours. Mais je suis déjà un nègre, je ne veux pas être deux fois nègre.
Très remonté, Alain.
Voilà, très remonté.
Très remonté. Hein.
Mais je lui ai dit, c'est quelque chose de très important et je ne veux pas qu'on puisse jouer avec ça. Il faut qu'on comprenne que c'est par la langue française que nous allons créer le courtoisie de demain et que nous pouvons aussi diviser par la langue française. Si vous commencez à horripiler ceux qui en sont les ambassadeurs depuis vos bureaux parisiens, eh bien nous, on va se tourner vers les autres langues hein, qui nous attendent et qui nous embrassent. Donc ça, c'est très important. Je suis ici pour cela.
Merci Alain Mabankou.
Merci beaucoup.
Merci.
Tiens, Pierre Alsouline, bonjour. Comment allez-vous ?
Ça va.
Avec Patrick Rambeau à côté ?
Oui. Sur le côté, parce qu'on ne va pas se précipiter sur la photo, on n'est pas comme ça. Donc. C'est bien là, on met du bois comme ça, c'est sympathique. Ça sera mieux quand il y aura moins de monde et qu'on verra des livres, parce que là, on ne voit pas les livres.
Patrick Rambeau, vous aimez ce genre d'événement, vous ?
J'ai horreur de ça, alors je cherche à me casser, d'ailleurs, pour fumer un clope.
Oui, bah, t'es pas sorti. Hein,
ouais, mais là, c'est pas possible. Là. Ou alors, il faut descendre des escaliers là-bas. Vous savez, il y a des escaliers là-bas.
Ah, je sais, c'est compliqué. Ma vie est compliquée.
Qu'est-ce que vous allez faire ici à Francfort ? Quel est votre programme ?
Ah, moi, on peut repartir demain, après. Non, on va faire la deuxième liste du concours.
Et les prix, alors, quelle importance ils ont aujourd'hui ? Quel est l'impact d'un prix pour
un
auteur ?
Mon pauvre ami.
C'est ça, uniquement ça, Patrick Rambeau ?
Non, c'est pas que ça.
Non, mais leur intérêt pour les libraires, pour les autres, pour tout le monde, c'est ça. Tous les moutons se précipitent, c'est normal, tous les ans, soit n'importe quoi.
Je vais traduire la pensée de Patrick Rambeau. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est formidable les prix, parce que ça focalise l'attention des gens sur la littérature et les livres, plus ou moins bien, plus ou moins bons, pendant quelques mois. On parle que de ça. Et ça fait vendre des livres. Mais des bons et des mauvais, et ça fait entrer des gens dans les librairies. Donc c'est une très bonne chose. parce que ça met le livre dans l'actualité de tous les jours. Rien que pour ça, déjà, c'est formidable. Vous savez, il y a 2000 prix en France. Hein. Alors nous, on parle de quelques-uns, mais il y en a 2000.
Merci Pierre Assouline, merci Patrick Rambaud.
Bah, je vous en prie, mon vieux.
Merci, vous êtes toujours adorable.
Vous n'aurez pas un steak frites.
Ah, j'ai pas un steak frites, non. Par contre, j'ai un petit verre de vin, je crois, derrière. Ou une bière allemande, plutôt.
La librairie francophone. Émission spéciale. Emmanuel Guérald.
Toujours sur le pavillon France avec la ministre de la Culture de la France, Françoise Nyssen. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ? Merci d'intervenir dans la librairie francophone sur les radios francophones publiques en Belgique.
Que je connais bien.
Bien sûr, on vous a connu avant dans une autre vie. Absolument. On va dire. Donc l'émission en Suisse, en Belgique, au Canada et en France, la France, ou plutôt la francophonie qui est invitée d'honneur de cette foire du livre de Francfort. Quel est le symbole pour vous ?
De la francophonie ? Justement, ce qui est très important, c'est d'abord, c'est formidable dans les échanges franco-allemands, l'amitié franco-allemande que je soulignais la remise du prix Franz Sessel, mais que la France, dans cette invitation, ait pris la carte de la francophonie, c'est fondamental. Je me sens ministre de la francophonie. Le français se nourrit de toute la cohabitation, les échanges avec toutes ces langues des pays francophones, et c'est fondamental. Donc, pour moi, c'est hautement symbolique d'être là, dans ce cadre-là.
Alors vous avez dit ici à Francfort vouloir refonder l'Europe par la culture. Vous avez réuni d'ailleurs les ministres européens. Qu'entendez-vous par refonder l'Europe par la culture ?
Il fallait qu'on discute, qu'on échange. Les choses n'avancent que par la coopération et par l'échange. Et donc c'était l'objet de cette invitation que nous avons faite avec Monica Grütters, de rassembler des ministres européens de la culture pour échanger sur ces sujets fondamentaux qui sont notamment le partage de la valeur. Vous savez qu'à la faveur du numérique et de l'évolution, il s'agit d'être attentif à la protection des créateurs, des artistes, du droit d'auteur. Et c'était quand même un des sujets fondateurs de cette réunion. L'idée de l'Europe de la culture est quelque chose que porte ce gouvernement en France par la personne d'Emmanuel Macron, le président, et l'ensemble de son gouvernement. Et en tous les cas, moi, en tant que ministre de la culture, je le porte, parce que c'est par là qu'on va pouvoir avancer, garder un modèle de société comme modèle de partage, d'accompagnement des artistes, d'accueil, de la création, de sauvegarde. Et donc, ça veut dire des choses très concrètes. Cette Europe de la culture, c'est le patrimoine, par exemple. Nous partageons un patrimoine. Le patrimoine peut être une source de revitalisation sur les territoires. Et je suis ministre de la culture pour tous, partout. Et donc, je m'attache à cette question de la revitalisation. Et la question du patrimoine est essentielle.
Alors justement, vous parlez de francophonie. Dans l'espace francophone, vu de la Suisse, de la Belgique et du Canada, la nomination d'une ministre de la culture, qui est une grande et réputée éditrice, est vue comme un atout. Comment cela a-t-il été perçu en France ? Et quel est votre atout, Madame la Ministre ? Quelle est votre conviction profonde ?
Effectivement, l'accueil a été intéressant, l'accueil a été chaleureux. Pourquoi ? Parce que je viens de ce milieu-là. D'une certaine façon, là où j'étais, sur mon territoire, je faisais un peu tout ce que je dois faire maintenant à 360 degrés et pour l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire défendre les artistes, défendre la création, être totalement impliqué dans le milieu du livre. Et donc, je pense que pour tout ce milieu-là qui voit parfois au niveau de l'Europe certaines attaques aux droits d'auteur et à la création, c'était rassurant. Et puis, c'est important de défendre cette idée de l'importance du livre. Mais pas que. C'est aussi une vie culturelle que nous avions développée localement et qui continue d'ailleurs, parce que moi, je n'étais qu'un élément accompagné dans une grande équipe. Et cette vie culturelle, elle est le ferment même de ce qui peut se passer sur l'ensemble des territoires, que la culture, elle soit partagée par tous. Parce que le grand problème que nous avons, c'est l'accessibilité de la culture, c'est la diffusion de la culture. Et c'est pour ça qu'un des points forts du programme que je souhaite défendre, c'est la culture qui n'est pas un supplément d'âme, mais qui est constitutif du parcours de l'enfant dans son programme éducatif. Et pour célébrer cela, à partir du moment où on met la culture partout, la musique, la lecture, et donc tout le travail sur les bibliothèques, tout ça est un continuum, rien n'est dissocié de l'autre, et bien tout ça se symbolise par un passeport culturel. Et donc nous avons aussi évoqué le passeport culturel.
Pour les jeunes, oui, ça c'est une priorité pour vous depuis que vous avez été nommé.
C'est un continuum et ça symbolise hautement cette notion de l'importance que peut représenter la culture pour le jeune. Voilà ce que ça veut dire.
Merci Madame la Ministre d'avoir partagé ces valeurs francophones que nous partageons tous et auxquelles vous êtes bien sûr associés depuis de nombreuses années.
Et merci de les défendre à travers votre émission.
On va continuer. Merci Françoise Nyssen.
Merci Emmanuel.
Merci beaucoup.
Voilà, nous allons quitter cet espace pour aller au cœur de la foire de Francfort, dans un studio régie spécialement installé pour nous et pour Jean-Marie Gustave Leclésio, autre invité exceptionnel de cette émission spéciale. Avant de partir à l'île Maurice avec le nouveau roman du prix Nobel de littérature, on part en Haïti avec la chanteuse canadienne haïtienne Mélissa Lavo. Mélissa Lavo qui reprend une chanson traditionnelle haïtienne, Nan Fond de Bois, sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Bonjour, bonjour Emmanuel Caron.
Nous sommes dans un petit studio mobile au centre de la foire de Francfort, au milieu des halls d'exposition. L'endroit est immense ici et nous vous faisons vivre cet événement avec des invités de prestige. Jean-Marie Gustave, il y a justement un acteur prestigieux qui nous a quittés cette semaine. C'est Jean Rochefort, qui était un passionné de chevaux, comme vous. Je sais que vous aimez beaucoup les chevaux. Vous connaissiez Jean Rochefort ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré.
Alors, il y avait comme ça ce point commun entre vous, l'occasion de lui rendre hommage. Je vous propose d'entendre sa voix et je vous laisserai réagir après.
Le cheval est d'abord historique. En plus, il est très inspirant pour les artistes parce que c'est un animal d'une extrême beauté sensuelle pour nous. Bien sûr, on peut le dominer, mais on n'a jamais cette osmose mystérieuse qui peut se produire entre un cheval et un homme, car quand l'osmose est là, il n'y a plus besoin d'un dominant.
Et la promenade en solitaire à cheval, pour vous, Jean, c'est, je cite, « le meilleur moment d'une vie, des souvenirs avant la mort ». Quels souvenirs en gardez-vous, là, aujourd'hui ?
J'en ai la gorge qui serre. Voyez un cas d'évocation de ces promenades solitaires avec un cheval qu'on aime et dont on sait qu'il a avec vous quelques complicités. Et ça a été des moments de bonheur absolument prodigieux.
Vous faites toujours le cheval, Jean Rochefort, vous imitez toujours les animaux?
J'imite assez mal le cheval, bizarrement.
Plutôt le chimpanzé.
J'imite très bien le chimpanzé. Enfin, une interview intelligente. Enfin, quelque chose de culturel. Oh, je pense que ça va être diffusé partout.
Partout dans le monde, vous imaginez?
Dans le monde, mais quelle horreur.
Votre réputation est fichue.
Oh là 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 là, je pars en Tasmanie.
Jean Rochefort, mort à l'âge de 87 ans lundi. Une réaction, Jean-Marie Gustave Leclésio, vous avez eu une complicité, vous, avec un cheval un jour comme lui?
Pas personnellement, mais j'étais très touché par un texte que j'ai lu il y a quelque temps, qui était écrit par un écrivain qui s'appelle Fatallah Saï, qui a écrit La gloire du désert. Et il raconte cette anecdote qui est magnifique. On vole un cheval qu'aimait beaucoup un cheikh de Bédouin. Et là, quelqu'un lui apporte un fusil et dit « Tire, tire sur le voleur !» Et il dit « Non, je préfère que le cheval s'échappe parce que c'est l'honneur du cheval de courir plus vite que ceux qui le poursuivent. »
Vous venez de publier votre nouveau roman, Jean-Marie Gustave Leclésio, Alma, paru chez Gallimard. C'est une grande histoire, avec deux personnages en parallèle, deux personnages à l'île Maurice à deux périodes différentes. Un homme exclu par la société et par sa famille, lépreux devenu vagabond, et Jérémy Falsen, issu de la même famille, descendant de colons de Maurice. L'unité de temps est secondaire dans ce livre, Jean-Marie Gustave. Vous montrez finalement que tout se perpétue. L'exclusion, la destruction par l'homme de l'écosystème, tout est différent, mais tout se reproduit autrement.
Oui, tout s'enchaîne. La mort du dodo, cet oiseau merveilleux, qui était le maître absolu de l'île Maurice, l'arrivée des esclaves, la mort des esclaves, les esclaves prenant le large et habitant dans les forêts, et puis l'arrivée des Indiens qui eux aussi peuplent la forêt et construisent les premiers temples, et puis l'arrivée des Français, tout ça se succède dans ce tout petit territoire et ça crée finalement, peut-être pas une unité de temps, mais je dirais peut-être une unité mythique.
Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est un peu fantasmagorique parfois.
Oui, oui, moi je crois beaucoup à la fantaisie, je ne crois pas à la logique plutôt.
Bon, vous n'êtes pas un militant écologiste, hein, mais toute votre œuvre considère la nature. Il y a cette histoire effectivement du dodo en filigrane de votre roman, c'était un oiseau placide qui n'avait pas peur des hommes et qui avait un handicap parce qu'il avait des ailes en forme de moignon, des ailes très courtes qui l'empêchaient de voler. Il a été exterminé par l'homme au 17e ou au 18e siècle, on a des doutes, et c'est le symbole de l'île Maurice ce dodo.
Oui, c'est devenu la figure emblématique et cela se comprend parce que quand vous habitez dans une île, vous êtes beaucoup plus fragile. Et l'île Maurice, comme tous les territoires insulaires, est un pays qui est menacé par le réchauffement climatique, la pollution de la mer, l'arrivée très polluante, un excès de tourisme, enfin, toutes ces choses qui seraient finalement sans grandes conséquences à l'île Maurice deviennent rapidement dramatiques, y compris les heurts entre communautés. Tout ça, ça prend un tour, en effet, dramatique, mais en même temps assez joyeux, et les gens, finalement, s'entendent assez bien, sauf le dodo, malheureusement, qui a disparu. Mais bon, c'est devenu la figure emblématique de Maurice.
Et un peu de la Réunion aussi, hein. Par extension.
Oui, sans doute.
Ouais, il l'utilise en tout cas.
Oui, ouais. La Réunion, c'était pas le dodo, c'était le solitaire.
Ouais, c'était un autre. Ouais.
Ouais. Bon, c'était à peu près pareil. Ouais.
Bon, il y a votre personnage qui s'appelle Dominique, qui est surnommé Dodo, justement, qui est un exclu. Alors, vous évoquez comme ça le rejet, l'exclusion qui mène souvent à la folie. C'est ce qui va se passer dans ce roman, Jean-Marie Gustave Leclésio. L'exclusion, puis la solitude, puis la folie, tout s'enchaîne.
Oui, c'est-à-dire que ce personnage, je me sens assez proche de lui parce que c'est le personnage qui représente une tribu en voie de disparition. Moi, je suis partie d'une tribu en train de disparaître. Ce sont ces franco-mauriciens, comme on les appelle, qui provenaient pour la plupart de Bretagne ou de Normandie, qui ont peuplé l'île, qui l'ont développée, plus ou moins, plutôt les esclaves, à mon avis, qui l'ont développée. Mais enfin bon. Et ils avaient une culture très forte. Et cette culture est en train de s'effilocher, de disparaître. c'était des gens raffinés. Bon, ils étaient sûrement cruels à certains moments, mais c'était une population assez raffinée qui ne visait pas nécessairement la fortune. Mmh. Et comme ils disparaissent, bon, ouais, ils me deviennent assez chers parce que je me sens issu de ces gens.
Pour revenir sur cette solitude, cette exclusion, on peut y voir là encore le symbole d'une humanité qui se désolidarise. Les migrants, les sans domicile par extension. Vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre.
Oui, parce que tous les Mauriciens sont des migrants. Il ne faut pas oublier, l'île Maurice était dépeuplée. Ils sont tous venus d'ailleurs dans des bateaux différents et avec des fortunes différentes. Mais ils sont tous venus avec cette idée de chercher une vie meilleure là où ils arrivaient. Et ils n'ont pas été refusés, ils n'ont pas été repoussés. Quelquefois, ils ont même été appelés dans le cas des immigrants indiens. Mais ils ont reçu un bon accueil. Et je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, on a inventé des barrières, des frontières, des notions qui séparent les humains au lieu de les unir.
Elles ont toujours existé, les frontières?
Non, je crois pas. Non, elles n'ont pas toujours existé. Quand j'avais 20 ans, les gens du Ghana circulaient facilement à travers l'Europe. Ouais. Et ils retournaient au Ghana, il n'y avait pas de problème. Mmh. C'est une invention assez récente, la frontière fondée sur la couleur et sur l'origine. Mmh.
Bon, il y a 4 libraires qui ont lu votre roman, Jean-Marie Gustave Leclésio. Le Canada ou la Suisse, on commence par qui? Choisissez.
La Suisse.
La Suisse. Allons-y, Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel. C'est un magnifique voyage que vous nous offrez. Nostalgique, magique et terrible. Après la lecture d'Alma, il en reste des images comme en projecteur de diapositives. On est face à l'écran. On se retrouve au temps des colonies ou à notre époque, avec surtout des personnages marquants, exotiques et étranges. J'ai retrouvé avec plaisir votre plume poétique qui m'a bercé de vos légendes insulaires et familiales.
Marie-Noëlle Blé est donc libraire à Montréal dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noëlle, êtes-vous d'accord avec votre collègue suisse?
Bonjour Emmanuel, absolument d'accord. J'ai été aussi totalement enchantée et portée par cette langue qui est enracinée dans l'île. Les personnages ont une réelle épaisseur, le récit est dense. Et puis on a même parfois l'impression qu'il a le goût des lieux, un genre de mélange de poussière et de canne à sucre. Pour moi, c'est vraiment une expérience littéraire rare. Et puis forcément, j'ai été très touchée par le personnage de Dodo. Donc voilà, vraiment bouleversant et passionnant.
Bien. Dodo et Jérémy Felsen, le personnage le plus contemporain de votre roman, Jean-Marie Gustave, descendant de colons, qui va aller à l'île Maurice sur les traces de sa famille. Et il dira, bien qu'il ne soit pas né là-bas, « Je sens en moi le poids de son histoire, la force de sa vie ».
Oui, je ressemble beaucoup à ce personnage.
Ouais, mec, c'est ce que j'allais dire, oui.
Il a des différences, mais la première fois que je suis allé à Maurice, parce que je n'y suis pas né, je n'ai pas eu le sentiment d'arriver dans un endroit que je ne connaissais pas. Tout m'était familier. Et on m'avait beaucoup parlé de l'odeur des fleurs de canne. Et je descends de l'avion et je sens cette odeur. Et je ne sais pas, ça fait tressaillir quelque chose en moi. Comme si les émotions de mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient passées en même temps que, je ne sais pas, mes goûts et mes travers physiques.
Oui, mais c'est vrai que c'est un peu vous ce personnage, parce que vous êtes né à Nice, effectivement, pas sur l'île Maurice. Il est en révolte aussi, comme vous. C'est un peu votre porte-voix, ce Jérémy Felsen.
Oui, l'île Maurice, c'est très difficile d'être issu de cet endroit. Quand j'étais enfant à Nice, justement, quand j'en parlais avec des camarades de classe, ils croyaient que je leur parlais de Saint-Maurice, un quartier de Nice. J'ai dit non, c'est un peu plus loin. Et pour leur en apporter la preuve, je leur montrais des timbres, mais ils voyaient ces timbres avec la tête de George VI et un paysage tropical, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et donc très rapidement, j'ai cessé d'en parler, j'ai renfermé ça en moi. Et ce n'est qu'en commençant vraiment à écrire des romans que petit à petit, j'ai ressenti le besoin de laisser passer ces émotions et ces souvenirs qu'on m'avait inculqués.
Il y a de nombreux portraits de personnages sur l'île Maurice dans ce roman. Tous vivent une forme de solitude. Vous avez étudié d'ailleurs le thème de la solitude chez Henri Michaud, je crois, lors de vos études, quand vous aviez une vingtaine d'années. Là encore, c'est un thème récurrent dans votre œuvre, la solitude.
Oui, je me souviens qu'à l'époque où je faisais ce mémoire, j'avais même utilisé « belle solitude ». Parce que pour moi, c'est pas un manque, la solitude. C'était un recueillement, c'était une réflexion, c'était un arrêt dans le temps. Et j'ai besoin de ça pour écrire. C'est pas une solitude, j'ai pas besoin de m'isoler dans une cabane dans la forêt. Mais j'ai besoin d'écrire plutôt la nuit, quand les bruits baissent un petit peu dans la ville. J'ai besoin d'écrire dans la proximité des autres. mais avec une espèce de rempart tout autour de moi.
Vous est-il arrivé de subir la solitude, Jean-Marie-Gustave Le Clézio ?
Je crois jamais.
Non, jamais.
Jamais.
Ça, jamais. Ça ne
subir,
vous pèse jamais.
Dans le sens où j'en ai souffert, non, jamais. Ça ne m'est pas arrivé.
Parce que vous n'avez jamais été seul ou parce que vous l'acceptez sans problème ?
J'ai eu sûrement la chance de choisir mes moments de solitude.
Oui, c'est ça.
Et si ça vous est imposé, effectivement, si on vous enferme dans un cachot, peut-être pas tout à fait pareil.
Ça, c'est l'extrême, oui. c'est l'extrême. Bon, il y a Déborah qui est en Belgique, qui piaffe d'impatience, libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Déborah, bonjour, c'est à vous. Que voulez-vous dire à Jean-Marie-Gustave Le Clézio ?
Oh, beaucoup de choses, monsieur Le Clézio. Je sais que vous êtes un auteur hors norme, je sais que vous êtes un prix Nobel, je sais que vous êtes même un monstre sacré, et pourtant, pour moi, très très naïvement sans doute, ben, je vois en vous un ami de toujours. Parce que vous avez accompagné vraiment toute ma carrière de lectrice enthousiaste. Depuis Désert, que j'ai lu et que j'ai relu avec passion, je redécouvre chaque fois avec le même bonheur et avec une joie tout à fait intacte la musique de vos mots et la perspective de vos récits. Et en lisant Alma, eh bien, je retrouve tout à fait mon corps d'enfant, mais j'arrive à garder mes yeux d'adulte et c'est magnifique.
Un hommage de Déborah Damblon. Les libraires sont vos amis, Jean-Marie-Gustave Le Clézio.
Oui, je suis très touché de ces paroles. Ça me touche profondément. On parlait de solitude, donc c'est la preuve que quelqu'un qui écrit réussit à vaincre ce rempart de la solitude.
Bonjour Patrick Suel.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la librairie francophone. Vous êtes libraire à Berlin, dans la librairie Zadig, une librairie francophone. Vous avez lu le roman de Jean-Marie-Gustave Le Clézio. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes juste à côté de lui, ici à la foire du livre de Francfort, dans ce petit studio improvisé pour l'occasion.
Oui, je suis enchanté de vous revoir, monsieur Le Clézio. D'autant que je vous ai aperçu à Beyrouth en 2009 et étant donc dans l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones, en tant que libraire francophone de Berlin. Donc, que dire ? Oui, j'ai dû le lire in extremis puisque j'anime un point de vente de livres ici même lors de la foire.
On vous a donné du travail, c'est ça ?
Voilà, anticipé, vous m'avez fait anticiper. Travailler en plus.
Mais vous l'auriez lu quoi qu'il arrive, vous savez.
Oui, je suis ravi de vous retrouver. Du coup, ça me met dans l'ambiance, dans le climat.
Alors,
c'est un très très beau livre. Le Clézio, moi, pour moi, c'est un auteur qui compte a fortiori comme tous mes collègues parce qu'on l'a avec grâce et engagement vendu au moment du prix Nobel.
Ouais.
Moi, j'ai retrouvé tous mes ingrédients de littérature monde. Je vais rendre hommage à Jean-Marie-Gustave Le Clézio.
Ça va lui faire plaisir. Ouais.
De cette façon, parce que outre les personnages comme Cristal que j'aime beaucoup ou Dodo, j'ai revu dans le flow, j'emploie un mot anglais dans la francophonie,
ça, c'est interdit,
parce que je suis à Berlin et que les Allemands le font volontiers.
Bon, allez, vous êtes
dans la scansion des noms, dans plein de choses, j'ai retrouvé une épice à la Le Clézio, très belle, et le côté ilien d'une écriture. Et là, moi, j'ai été sous charme et ça m'a évoqué un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wilfried Nsondé, que vous connaissez, qui est signataire du Manifeste pour une littérature monde.
Et vous allez avoir une petite surprise dans quelques instants, puisque vous citez cet auteur-là. Je donne un indice. Bon, vous êtes touché, Jean-Marie-Gustave Le Clézio, je le vois à vos yeux, parce que les quatre libraires ont adoré votre roman. C'est un livre effectivement magnifique, et il semble d'ailleurs que vous vous êtes fait un peu plaisir, parce que quand on vous connaît un petit peu, on retrouve tout ce que vous êtes, finalement. Il y a des clins d'œil. Alors, il y a l'île Maurice, ça, c'est pas un clin d'œil, c'est en filigrane. Nice aussi, que vous évoquez pas mal. La nature, on en a parlé, l'humanisme. Par clin d'œil, vous évoquez les chevaux. La Bretagne, je vais m'arrêter là, mais il y a plein de choses qui vous définissent, comme si ce roman était le roman de Le Clézio, qui définissait Le Clézio, si on avait envie de le connaître.
Oui, c'est assez amusant d'en parler ainsi, comme une sorte de, comment dire, de mécano, je ne sais pas, où il y aurait toutes les pièces. Je ne sais pas si c'est particulier à ma façon d'écrire, mais j'ai l'impression que j'utilise en effet les mêmes images, les mêmes instruments, les mêmes mots parfois, que je les combine et les recombine. C'est ça, un caractère obsessif, l'écriture. On ne peut pas s'abstraire de soi-même, on ne peut pas se changer.
Il est question d'une notion très importante, Jean-Marie-Gustave Le Clézio, que nous avons évoquée d'ailleurs lors de la remise du prix des 5 continents, mercredi à Francfort avec l'OIF. C'est un mot essentiel que je vous propose de découvrir dans un extrait de votre roman, lu par un jeune écrivain qui a reçu lui-même le prix des 5 continents. Notre libraire de Berlin l'a un peu dévoilé, il a accepté de lire ce passage, sans le savoir en plus, hein, c'est ça qui est fort. Il a accepté de lire un extrait de ce passage dans un jardin pas très loin d'où nous sommes, ici, dans cet immense lieu consacré à la foire du livre de Francfort. Il s'agit de Wilfried Nsondé.
Est-ce que j'ai quelque chose en commun avec celui qui a disparu ? le clochard magnifique dont je retrouve les traces, qui a fait son voyage de retour en France et n'est jamais revenu. Non loin de la maison, au milieu des cannes, j'aperçois les visages sombres des enfants des environs, attirés par le rythme du séga des s'embrasses. Ils sont au spectacle, ils se tortillent et se déhanchent, ils éclatent de rire et frappent dans leurs mains. Qu'ils se joignent à la fête, qu'ils viennent aussi pour montrer que les barrières n'existent pas, qu'ils sont les enfants de ceux qui ont inventé la musique et le langage. Mais un geste d'un homme, un employé de la sucrerie peut-être, ou un de ceux qui font la livraison des sandwichs et des boissons, et toute la bande de gosses s'enfuit à travers la brousse. L'interculturel, une fois encore, n'aura pas lieu.
Wilfried Nsondé, l'interculturel, une valeur importante pour Jean-Marie Gustave Le Clézio, pour son personnage, pour vous aussi.
Oui, alors je me faisais une réflexion en écoutant les interventions des uns et des autres pendant la remise du prix des 5 continents. Et en lisant ce passage aussi, je me dis que peut-être en vérité, la question, c'est pas est-ce que l'interculturel aura lieu ou pas. L'interculturel est omniprésent, mais il s'agit d'en définir des conditions de bienveillance et je pense surtout d'écoute. Parce qu'on a appris au XXIe siècle à s'exprimer, mais on n'a pas encore appris à s'écouter, à laisser parler l'autre, qu'il nous livre ce qu'il est. Voilà, moi, c'est cet interculturel-là que je souhaite, l'écoute.
Une réaction, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, le cœur des enfants léopards, c'est un livre très fort.
Oui, oui.
Et j'ai eu la chance de lire des passages de ce livre à des jeunes en Chine qui n'étaient pas préparés du tout à ça. Ils savaient qu'il y avait des enfants combattants, mais tout à coup, ça les a éveillés à cette dimension cruelle de l'histoire moderne. Et donc, Wilfried Nsondé a raison de dire que c'est l'émotion qui permet le rapport entre les êtres.
Et l'interculturel, donc, le fameux mot que vous utilisez.
Oui, l'interculturel, c'est un idéal.
Ouais.
Mais donc, à Maurice, avec d'autres gens, nous allons dans les écoles, et nous, ce que fait Nsondé, ce qu'il a fait peut-être. Donc, nous allons et nous faisons rencontrer des enfants créoles avec des enfants d'origine européenne ou chinoise. Ils se rencontrent à l'école, ils apprennent à parler leur langue mutuelle, donc à s'écouter.
À s'écouter, oui. Le prix des 5 continents, donc, a été attribué au Tunisien Yamen Manaï pour Lama Ardent, paru chez Elizade. Vous êtes membre du jury, président d'honneur de ce prix, Jean-Marie Gustave. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman, en quelques mots ?
Que c'est un roman, c'est...
Un vrai roman.
Un vrai roman, on lit ça, c'est ce qu'on appelle en anglais « page turner ». On a envie de continuer de tourner les pages pour comprendre de quoi il s'agit. Et ça ménage une surprise presque à chaque chapitre. C'est
exact.
Très bien fait.
Très bien fait, et on en parlera très prochainement, puisque Yamen Manaï, prix des 5 continents de la francophonie, sera bientôt dans la librairie francophone. Vous l'écouterez, Jean-Marie ?
Bien sûr, bien sûr.
Merci. Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Merci Emmanuel.
Merci infiniment, c'est toujours un grand plaisir. Merci pour cet entretien ici à Francfort. Votre nouveau roman Alma est paru chez Gallimard. Alma qui signifie d'ailleurs âme en corse, en espagnol et en portugais. Vous le saviez, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Un roman sublime. Merci Jean-Marie Gustave. Le Clézio est un génie humaniste. Je ne lui dis pas parce que sinon il va être gêné. Le temps de nous déplacer et d'aller dans un autre lieu de la foire du livre de Francfort avec Tahar Benjelloun et Éric-Emmanuel Schmitt, membres tous les deux de l'Académie Goncourt. Ils viennent de révéler ici la dernière liste des auteurs en lice pour le prix Goncourt. On en parle après une reprise africaine étonnante d'un célèbre titre de Georges Moustaki. Vous allez tous reconnaître. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Avec ma gueule de nègre, mes têtes des juifs errants, de rasta grec et mes dreadlocks sont fervents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de nègre, mes techs, des juifs errants, de rasta grecs, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et à tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de nègre, mes têtes des juifs errants, de rasta grec et mes dreadlocks aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme et sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir.
Le métèque de Georges Moustaki, interprété par Alpha Blondie sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Nous sommes toujours à Francfort à la Foire du Livre, un événement mondial qui permet aux éditeurs d'acheter des droits pour les traductions et adaptations. C'est un marché considérable. Beaucoup de choses se jouent ici et quand un auteur francophone est traduit dans le monde, eh bien c'est ici que ça se décide. Voilà, on est arrivé dans un autre espace, un autre lieu ici à Francfort, du côté du pavillon France, avec Tahar Benjelloun et Éric Emmanuel Schmitt, membres de l'Académie Goncourt. Bonjour Éric Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Manuel.
Et alors il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est complètement improbable.
On l'a apporté.
Et c'est notre chroniqueur de luxe que vous connaissez tous puisqu'il est récurrent de la librairie francophone, c'est Dany Laferrière.
Je me demande ce qu'il fait là, bonjour bien sûr.
Mais moi aussi je me demande ce que vous faites là.
Ben je passais, comme on dit. Et je me suis arrêté, j'ai vu du monde, je me suis assis.
Bon, alors on va parler un petit peu du Goncourt, on va parler aussi de la notion de pardon. On va en parler parce que Éric Emmanuel Schmitt a publié un merveilleux recueil de nouvelles. Le Goncourt, donc tout le jury Goncourt a fait le déplacement ici à Francfort. Vous venez de donner la deuxième liste avec les 8 finalistes. Les nommés pour le prix Goncourt 2017 sont...
Alors par ordre alphabétique, hein, parce qu'on va en faire les choses bien. Moi j'ai dit le nom de l'auteur, lui va dire le titre du livre. François-Henri Desérables.
Pour un certain monsieur Piekielny. En fait, en polonais, on dit Piekielny.
Olivier Guèze.
Pour la disparition de Joseph Mengele.
Yannick Enel.
Tiens ferme ta couronne.
Véronique Olmi.
Bakita.
Alexis Ragugno.
Nils.
Monica Sabolo.
Sommer.
Éric Vuillard.
L'ordre des choses.
Et puis, par ordre alphabétique, Alice Zineter.
L'art de perdre.
On va en éliminer 4 dans 15 jours, à peu près.
Oui, et le 6 novembre.
Et le 6 novembre, on va éliminer 3, on va garder 1.
Et donc, le gagnant du Goncourt est...
Aujourd'hui. C'est un écrivain allemand, parce que c'est la foire cette année, tu sais, qui écrit en français, mais son livre n'est pas terminé, alors on va pas pouvoir.
Le gagnant du Goncourt chaque année, c'est le prix Goncourt.
Ou le lecteur, ravi de trouver un livre qu'on lui a concocté.
Vous avez un favori, Daniel Laferrière, dans tous ces noms-là?
Et il n'est pas sur la liste.
Ah, très bien. Ah bah, moi, ça calme. Allons-y. Bon.
Non, c'est incroyable. Parce que, j'ai dit tout à l'heure à Eric Emmanuel, on devrait faire un petit texte pour dire pardon, puisqu'on est dans le pardon, à tous ceux qu'on n'a pas pu retenir. C'est la loi de la démocratie. On fait un vote. Et puis ceux qui ont le plus de voix sont retenus. Et on ne peut pas faire passer quelqu'un, même si on l'aime beaucoup, mais si on est seul à l'aimer, il n'a aucune chance d'être retenu.
Il y a Daniela Ferrière, on va vous libérer parce que vous êtes appelé, je crois, c'est ça? Oui, on est en train de me dire qu'il faut y aller.
Nous, on ne le libère pas, nous, on le garde.
On l'a séquestré, le pauvre, mais il allait faire autre chose.
Mais c'est ça, Francfort, et tout le monde court partout et on n'arrive pas à voir les gens parce qu'on est derrière des quadrillages de sculptures en bois ou de mise en scène du livre. Et c'est un peu compliqué, je trouve, ce décor.
C'est joli, en tout cas, tout en bois, avec tous ces
livres. Non, moi, j'aime le bois. J'aime le bois. C'est pas l'opinion de la forêt, mais j'aime le bois.
Merci, Daniela Ferrière. Merci beaucoup d'être passé comme ça, de façon complètement imprévue.
Dès que je vois le bois, je ne peux m'empêcher de citer ce proverbe turc qui dit « Voyant venir la hache dans la forêt, les arbres de dire, le manche est des nôtres.
» Merci, Dani, à bientôt. Voilà, il est parti, comme ça, c'est la librairie francophone avec tous ses amis du club francophone que nous formons tous ensemble. Comment ça fonctionne au sein du jury? Arrivé dans les derniers jours, prix Goncourt, y a-t-il des pressions des uns et des autres? On se pose la question, oui.
On attend toujours les enveloppes bien garnies, personne ne nous en donne, alors on est vraiment pauvres et bénévoles. Non, il n'y a pas de pression. Qu'est-ce que vous voulez comme pression? C'est quoi?
Si vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le droit de mettre un veto?
Non, il n'y a pas de veto, ça n'existe pas. Mais le résultat est un vote, et parfois c'est aussi bête qu'un vote.
Ouais.
Parce que les votes ne conduisent pas forcément à la vérité, les votes conduisent juste à une majorité.
Robert Sabatier, qui avait toujours un vote un peu secret, on ne savait pas très bien ce qu'il allait faire, il ne parlait jamais de ça. Et puis, lorsque le candidat arrive, il dit... Je vous félicite et j'ai pas voté pour vous. Tu dis ça toujours ça systématiquement.
Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs, de fantasmes qui circulent autour du Goncourt. Certains croient que c'est un peu décidé d'avance pour valoriser un éditeur, par exemple, pour alterner aussi, alterner nationalité et maison d'édition. Vous en tenez compte de l'alternance?
Très sincèrement, il n'y a pas d'influence des éditeurs. Il y a simplement parfois, nous, une gêne à se dire que certaines maisons d'édition présentent régulièrement de très bons livres. Et on peut se dire, ça serait quand même bien que ça n'aille pas forcément. Mais c'est plutôt d'une façon négative, comme ça, en se disant, on va quand même pas récompenser la même maison d'édition chaque année. Mais si le livre emporte absolument l'adhésion, c'est quand même du livre qu'il s'agit.
Et parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne parle jamais d'éditeur. On fait nos choix. On ne dit pas, tiens, tel livre est paru chez tel ou tel éditeur. On parle du livre vraiment. On dit pourquoi on l'a aimé, pourquoi on voudrait qu'il gagne. Et chacun défend le livre qu'il aime. Et il faut convaincre les autres camarades pour qu'ils le lisent et qu'ils soient de votre avis. Ça se passe comme ça. Si par exemple vous aimez beaucoup un livre, vous êtes le seul à l'aimer, il n'a aucune chance de passer. C'est normal.
Il y a deux libraires qui sont avec nous en duplex depuis la Belgique et le Canada. Marie-Noëlle Blé, quel est l'impact du prix Goncourt français sur les ventes en librairie à Montréal? Y a-t-il un impact déjà?
Oui, quand même, il y a une grosse incidence sur les ventes en librairie, surtout en décembre. Ceci dit, ça dépasse quand même pas les sorties québécoises importantes de l'automne qui raflent tout. Même sans l'attribution de prix. Pour ce qui est d'un pronostic ou d'un favori, je ne les ai pas tous lus, donc je vais me garder d'en faire un. Ceci dit, j'aurais été très heureuse de voir Marie-Hélène Lafond l'emporter, même si elle est sortie ce matin.
Merci Marie-Noël. Déborah, en Belgique, comment ça se passe, vous, au niveau des ventes?
Ben nous, au niveau des ventes, un prix Goncourt, ben ça reste vraiment une valeur sûre. Et je trouve que cette récompense suprême, ça augmente beaucoup, beaucoup les ventes. Mais ça varie quand même très fort d'une année à l'autre. Parce qu'il faut être honnête, il y a Goncourt et puis il y a Goncourt. Il y a les Goncourt populaires et accessibles qui se vendent comme des petits pains et que nous, on soutient avec enthousiasme. Et puis, il y a des années où on a plébiscité des romans beaucoup plus ardus. Et là, c'est moins facile. Alors moi, personnellement, pour 2017, celui que je choisirais, parce que c'est un roman formidable et que c'est une auteur que je lis depuis longtemps, et puis qu'il parle de femmes et de francophonie, et puis de liberté, c'est Bakita de Véronique Olmy.
Celle-là, elle dit les choses clairement.
On pourrait l'inviter à la table.
Bon allez, on va parler du pardon parce que vous avez un devoir de réserve. Éric Emmanuel Schmitt, La vengeance et le pardon, c'est le titre de votre nouveau recueil de nouvelles. Parlons alors du pardon. Avec Tahar Ben Jelloun, ici à Francfort, en Allemagne, tout est pardonnable.
Non, je crois que parfois on peut se trouver devant l'impardonnable, mais il faut se trouver devant l'impardonnable avec la volonté de pardonner. L'homme qui a écrit les plus beaux textes sur le pardon, c'est Vladimir Jankélévitch. Il était un partisan du pardon, comme moi je suis un partisan du pardon. Mais quand on demandait à Jankélévitch de pardonner aux Allemands d'être devenus nazis et aux nazis d'avoir fait ce qu'ils ont fait, lui qui a dû se cacher pendant la guerre et qui a perdu une partie des siens, il disait non, je ne pardonne pas. Mais par contre, la volonté de pardon est importante. Parce que pardonner, c'est dire à l'autre, je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Je te restitue ton humanité tout entière, tu es capable du pire et du meilleur, et je vais te considérer toujours comme un être capable du pire et du meilleur.
Et dans la nouvelle qui donne le titre à votre recueil, Éric-Emmanuel Schmitt, il y a ce personnage, Élise, qui va tenter de pardonner à l'assassin de sa fille. Mais le pardon peut aussi être une vengeance, on va pas trop en dire. Elle dira, une mère, c'est quelqu'un qui ne repousse pas, quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui pardonne.
Mais vous savez, pardonner, c'est pas cesser de souffrir. Parce qu'il y a le pardon intellectuel et puis il y a le pardon émotionnel. Il y a le pardon intellectuel, c'est celui qu'on donne en disant « bon, il faut que l'avenir se dessine, il faut que la vie continue, je te pardonne ». Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de soi, on n'éprouve plus de douleur ni de haine. Mais c'est uniquement peut-être en avançant avec le pardon volontaire qu'on pourra créer au fond la paix en soi. Mais la paix, il faut toujours vouloir la faire venir, elle ne vient pas toute seule. Ouais. Mais je ne veux pas dévoiler les histoires, cette histoire-là. Mais c'est vrai que tout le livre est autour du fait que le pardon n'est pas toujours pur. Il y a des pardons impurs. Il y a des pardons pour soi plus que pour l'autre. Il y a des pardons pour avoir la paix en soi plus qu'avoir la paix avec l'autre. Et donc le pardon n'est pas un cristal très pur.
Il faut peut-être pardonner, mais surtout il ne faut pas oublier. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne et ce qu'elle a fait. C'est évident que ceux qui ont fait ces horreurs ne sont plus là. Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus de ce monde-là. On ne va pas non plus en vouloir à leur progéniture. On ne va pas maintenant en vouloir à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier, il faut enseigner ce qui a été fait pour que l'humanité n'oublie pas totalement. L'oubli est pire que le pardon. Parce qu'on peut pardonner, c'est une chose, mais oublier, ça veut dire que ça peut revenir n'importe quand et sous d'autres formes, avec la même brutalité et la même violence.
Et on renvoie d'ailleurs à votre livre L'Enfant de Sable, mais aussi la Nuit Sacrée, prix Goncourt 87, où vous racontiez la vie d'une jeune fille qui a endossé les habits et la personnalité d'un garçon sur la pression de ses parents. Et c'est un mensonge social qui a bousillé sa vie. Là aussi, la question du pardon est là.
Elle a pardonné, mais elle n'a pas oublié, parce qu'elle s'est refaite après, dans une espèce de structure équilibrée. Mais bon, ça a été un moment de combat aussi.
Merci beaucoup, Tahar Benjelloun. Merci, Éric-Emmanuel Schmitt. Vous êtes des grands fidèles de cette émission. C'est un plaisir de vous avoir réunis ici.
Et merci. Ah ben, sans cette émission, c'est pas possible. On peut pas.
Merci. Jusqu'en Allemagne, ils nous ont accompagnés. Merci à vous. La Foire du Livre de Francfort, c'est tout le week-end.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse Calypso Valois avec un extrait de Apprivoiser.
Yeah.
Calypso Valois apprivoisé, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel en France, avec Eric Audra et Ludger Brugmann de la radio Essischer Rundfunk. Thierry Dupin à la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Vera Louderide et Alice Jacquelin en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikils avec Valérie Elput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, on quitte l'Allemagne, retour dans nos studios avec le chanteur Yves Simon et Anne Gossigny entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et bonne semaine.